Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de G comme Odéon, émission d'actualité culturelle Made in Lyon. Cette semaine, nous évoquons la longévité d'une compagnie de danse qui brode sa trajectoire au fil des rencontres à Nouscan. Fête ses 30 ans. Guillaume reçoit le groupe Send Me Love Letters. Gaëlle évoque pour nous les nouvelles expositions du MAC et Thomas nous lira de sa belle voix un extrait du recueil « Wesh, quelque part » de Joséphine Bacon. Et nous terminerons par nos Gédéons. On débute avec vous, Sophie Tabakov et Laurent Soubise. Vous êtes les fondateurs de la compagnie Anouscan. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Et merci d'être venus nous rencontrer pour parler de vos 30 ans de création, de partage et de rencontres. Nous n'allons pas pouvoir évoquer toute votre histoire, ça ne va pas être possible, mais on peut au moins se pencher sur les débuts. Comment l'histoire a-t-elle débuté ?
Donc l'histoire a débuté en 1993. On se connaissait déjà avec Laurent. On travaillait ensemble dans une compagnie de danse lyonnaise, Michel Allais et Gaillan. On s'est dit qu'on avait envie de créer notre propre structure et d'aller vers nos propres aventures.
Qu'est-ce que c'est Anouscan
sur le Alors mot. Anouscan, c'est l'association de deux mots de cultures différentes. Anou, c'est un mot d'origine assyrienne qui désigne le dieu. Anou, c'était le dieu de la structure, du rythme, des cycles naturels, comme par exemple le jour et la nuit, etc. Et Scan, c'est un mot Sioux, donc complètement autre chose sur la planète, qui désigne le mouvement. Et en fait, Anouscan, ça sonne bien. Tout est mouvement, mais la Terre est ronde quand même. C'était notre slogan de départ.
Vous avez gardé ça dans votre ADN. L'idée, c'est le métissage, la rencontre, le partage.
Tout à fait. Scan est aussi venu parce que le premier projet de la compagnie a fait suite au prix de la Villa Médicis, qui m'a permis d'aller aux États-Unis à la rencontre des Indiens de différentes nations autochtones dans le nord-ouest des États-Unis. Et c'est là-bas que ce concept de scan et de mouvement entre toutes les choses, entre toutes les êtres et surtout la philosophie du cercle a émergé. Et quand je suis rentrée à Lyon, la compagnie s'est fondée autour de ce concept qu'on était tous sur un cercle et que tous on regardait le centre, mais chacun à sa place. Et que dans cette mesure-là, les cultures, au fond, nous aidaient à nous définir nous-mêmes, même si chaque culture porte une singularité.
Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas votre travail, comment le décririez-vous en quelques mots ?
La spécificité, quand même, l'ADN d'Anouscan, c'est le mouvement. Avant même que ce soit un mouvement de danse, c'est un mouvement qui fait qu'on est vivant. Dans notre studio, on a mis des glaces, évidemment, mais devant ces glaces, il y a un rideau. C'est pas la forme qui est essentielle, c'est vraiment le mouvement qu'on ressent dans le corps, qu'on laisse sortir, et c'est ça qui prime. Après, on ouvre le rideau pour voir...
Pour voir l'effet d'ensemble.
Pour voir l'effet d'ensemble, pour voir la forme que ça a,
Bien
si
sûr.
Ça correspond. Mais voilà, je dirais que c'est ça, la spécificité d'Anouscan, c'est le mouvement avant la danse.
Je peux dire aussi que dans la spécificité d'Anouscan, il y a aussi un ancrage dans un héritage auquel on se revendique, et l'héritage de la danse moderne américaine. Donc Isadora Duncan, Martha Graham, Doris Humphrey, Merce Cunningham, Trisha Brown, et puis toute la génération de la postmoderne qui nous a énormément nourris et sur laquelle on s'est beaucoup appuyé. Ce sont des gens qui ont ouvert les portes et les fenêtres, et ils ont permis à des gens comme nous ensuite vraiment d'avoir leur propre écriture et leur propre poésie en danse.
Vous décrivez vos 30 ans de création et de partage avec des mots comme gratitude, chemin, solidarité, irréalité.
Ou dans une autre réalité. Je vous disais qu'on parlait du mouvement et de la danse. La danse, ça serait du visible. Alors que le mouvement dont je parle en amont, c'est plus quelque chose qui est invisible, donc une autre réalité plus qu'une irréalité.
Pouvez-vous nous dire ce que vous retenez du chemin parcouru ? Qu'est-ce qui vous reste ?
Ça a passé très vite et très lentement à la fois. Peut-être qu'on commence à peine à comprendre ce que c'est que le mouvement. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a plein de fois où on y était, mais où on n'en avait pas vraiment conscience. Il a bien fallu 30 ans pour en arriver là et il ne faudrait pas moins.
C'est de l'expérience.
Pour les 30 ans, on le fait en plusieurs fois. On fait plein de petits événements
ouais,
comme
on
ça,
va
puis
en parler.
D'autres plus grands que d'autres. Le 20 octobre, on prépare pour cette soirée du 20 octobre, on prépare un film qui va reprendre un petit peu, retracer ses 30 ans. Et l'effet que ça fait de voir ce chemin avec les images qui ont été faites, c'est de voir qu'on a été jeune. C'est de voir qu'on dansait quand même vachement bien et puis d'une manière très rapide quoi. Aujourd'hui on serait bien incapable de le faire et puis on voit aussi l'évolutivité. Il y a des danses qui ont pointé leur nez seulement il y a 10 ou 15 ans seulement. Mm-hmm. Par exemple, pour vous parler de l'actualité, on danse beaucoup de tournoiements aujourd'hui, la danse du tournoiement.
Vraiment, vous pourriez décrire ce qu'est la danse du tournoiement?
La danse du tournoiement, bah, le plus connu,
pour
c'est les derviches tourneurs. Les derviches tourneurs soufis qui tournoient sur eux-mêmes.
Mm-hmm. Qui atteignent une transe.
Voilà, l'ivresse divine, ils diront, eux, plus que transe. L'ivresse divine, parce qu'effectivement, le tournoiement, c'est une danse qui est extraordinaire. Donc, elle sort de l'ordinaire, ça place le corps dans une physiologie et des conditions extraordinaires. Notre oreille interne est un peu déboussolée. Et c'est très intéressant parce que ça place le corps dans une condition de déconditionnement. Notre oreille interne, elle est conditionnée à notre déplacement
Bien
dans
sûr.
Le monde. Mais à partir du moment où on entame cette pratique, l'oreille interne est déboussolée et on trouve autre chose. Et ce que le corps trouve à ce moment-là, c'est vraiment autre chose.
Est-ce que tout le monde peut le faire ou est-ce qu'il faut,
Oui, on fait des ateliers d'initiation au tournoiement.
Pour justement découvrir un petit peu cette sensation qu'on a dans le corps et qu'on n'explore finalement jamais.
Qu'on n'explore pas assez dans nos cultures. Mais il y a plein de cultures où cette idée que les mondes, il y a des porosités entre différentes manières de percevoir la réalité et différentes manières d'appréhender le fait que plusieurs mondes coexistent en même temps, au même moment. Nous, on s'est toujours intéressé à ce type de culture parce que de là-bas arrivent des idées, des choses et des inspirations qui enrichissent le réel dans lequel on est ici.
On va parler d'une exposition intitulée Voies de passage qui sera présentée du 9 au 17 novembre à la mairie du 1er. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus, nous parler de ce projet qui a conduit à réaliser ce travail brodé.
Voie de passage, c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre du FIT, le Festival International des Textiles Extraordinaires de Clermont-Ferrand, qui nous avait fait une commande pour une œuvre chorégraphique. Et donc nous, on a choisi de travailler avec des personnes ayant obtenu le statut de réfugié en centre d'accueil de demandeurs d'asile, donc dans les CADA. On leur a proposé de broder sur du tissu la trace de leur exil, qu'on repérait d'abord avec des atlas, avec des feuilles de papier, et puis petit à petit se dessinait donc le trajet qu'ils avaient fait. Et ensuite, on reprenait juste le motif de ce trajet et on leur proposait de le broder. À ce tracé, on a joint des signes qu'on leur a proposé de broder à certains endroits. Certains signes, ils les ont inventés, d'autres on leur a proposé des signes qui symbolisent des moments importants dans leur voyage. Donc il pouvait y avoir un signe brodé qui signifiait « ici j'ai été seule » ou « ici un ami m'attendait »,« ici j'ai souffert », »,« ici j'ai retrouvé ma famille ». Donc les broderies sont à la fois un tracé et puis ornementées de signes qui représentent les moments cruciaux de leur voyage.
Et est-ce qu'on en fait de la danse? Non.
De ce projet-là, non. Après chacun de nos ateliers, on tenait le journal du témoignage, des témoignages, et on a écrit pour chaque broderie, pour chaque personne, pour chaque histoire, ce que nous on a reçu, ce que nous on a ressenti. C'est vraiment, et on a tenu ce journal, et ça fait partie aussi de l'exposition. Il y aura des parties de ce journal qui sera donné en même temps, mais pas de projet chorégraphique.
Très bien. Anouskhan a 30 ans. Un petit mot rapide sur le programme?
Le 20 octobre à Villeurbanne, il va y avoir une soirée où on va justement présenter ce film rétrospectif des 30 ans et aussi de la danse du tournoiement et du chant. Oui, voilà, et de la danse contemporaine avec les jeunes danseurs du CNSMD. Et puis au mois de novembre, donc l'exposition Voies de passage à la mairie du 1er avec le vernissage le 9 novembre à 18h. Et un temps fort le vendredi de la semaine suivante, qui sera donc le 17 novembre, et le 14 octobre à Saint-Étienne dans le cadre de la fête du livre. On va réaliser une performance complètement originale à partir du livre de Laurent Binet, Perspective, qui fait partie de la rentrée littéraire.
Merci beaucoup Sophie Tabakoff et Laurent Soubise d'avoir été mes invités. Je rappelle que mes auditeurs peuvent absolument retrouver tout le programme sur le site anoukscan.fr.
Merci.
Merci à vous. Bonjour Guillaume, tes invités aiment les mots et sans aucun doute les lettres d'amour. Le nom de leur groupe nous le laisse penser, Send Me Love Letters. Je te laisse avec tes invités pour mieux nous les faire découvrir. Merci Guillaume.
Bonjour Send Me Love Letters, ça fait longtemps que je suis après vous pour vous faire venir sur ce plateau. Je suis très content de vous recevoir parce que finalement il y a beaucoup d'actualités pour vous. Vous venez de sortir un nouveau clip, vous sortez un nouvel EP qui est une sorte de prolongement du premier. Alors d'abord, puisqu'on parlait de mots, peut-être nous raconter un peu l'histoire de ce nom de groupe, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Et puis je crois savoir que vous avez envoyé vraiment des lettres d'amour à des fans.
Bonjour, bonsoir. Effectivement, donc Send Me Love Letters, c'est un nom qu'on a choisi tous les quatre. Une soirée d'hiver, on a brainstormé pour trouver qu'est-ce qui pourrait nous correspondre. Et après moult recherches, on a trouvé ce nom qui sonnait vraiment bien pour tous les quatre et qui avait beaucoup de sens parce que quand on s'est rencontrés, on avait beaucoup de discussions autour de l'amour, autour des relations humaines. C'était vraiment quelque chose qui nous animait, dont on parlait beaucoup. Et on était contents que ça donne le nom du projet. Et c'est aussi ces discussions-là qui ont pas mal enrichi nos compositions et ce dont on parle dans nos morceaux. Et voilà, qui donne un petit peu toute l'identité du groupe. Et effectivement, on a envoyé des lettres d'amour. On a une newsletter en fait où on aime bien envoyer des petits cadeaux de temps en temps, des petites lettres, des petits mots. Ça fait partie un peu de voilà des choses qu'on aime bien, qui nous rendent proches de notre public. Donc c'est chouette pour nous de le faire. Et on a reçu des lettres d'amour aussi.
D'accord. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était pour le tremplin Kiwi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos influences? Tout à l'heure, on parlait des Arctic Monkeys, mais moi je trouve que ça va bien au-delà, en fait. C'est vraiment très original, ce que vous faites.
C'est de plus en plus dur de répondre à cette question parce qu'on se rend compte qu'on est influencé par tout et pas que par du rock. On écoute de la pop, on peut écouter de la soul, du funk, du rap. On aime vraiment découvrir des nouveaux artistes et peu importe le style musical. Donc, on a des influences très variées. Après, c'est vrai que dans le style qu'on propose, c'est plutôt Brit rock, Brit pop. Donc, effectivement, c'est plus des artistes de la scène anglophone comme les Arctic Monkeys ou les choses plus récentes comme Wolf Alice, Black Oni. C'est vraiment des groupes là en ce moment qui sont dans le coup, quoi. Je pense à Sam Fender aussi qu'on écoute beaucoup. Voilà. Beaucoup de choses comme ça, mais quand même, les influences sont riches et variées. Il y a plein de choses.
Donc, vous aviez d'abord sorti un premier EP qui s'intitulait At Least We Tried, et à la fin de cet EP, il y avait donc un titre qui s'intitulait
Strange Desire.
C'est donc ça. Le nouvel EP, eh bien, c'est une sorte d'addendum. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, un prolongement. On a l'impression que c'est plutôt un morceau en trois parties, une sorte de mini symphonie en fait.
Qu'on vient de sortir, on préfère dire que c'est un triple single plutôt qu'un nouvel EP, parce qu'on le voit plutôt comme ça. Et c'est vraiment effectivement ce qui vient finir l'EP qu'on a sorti il y a un an. Et c'est pas un seul morceau parce qu'il a vraiment été écrit sur trois années. On a d'abord eu Strange Desire 1, le premier. Et assez naturellement, l'année suivante, je sais pas, on a eu envie d'écrire la suite de ce Strange Desire, d'avoir quelque chose de plus péchu, de plus vénère, quelque chose sur scène qu'on pourrait prolonger. Strange Desire 2 est apparu. Et l'année d'après, donc tout ça se passe au fil des ans. Moi, j'avais l'impression que ce petit duo de chansons, il était pas fini parce qu'on finissait sur une note assez triste dans ce que ça raconte. Et j'avais envie qu'il y ait une fin vraiment plus douce et pleine d'espoir. Et je me suis dit, bon, on finit, on fait vraiment une trilogie, on écrit Strange Desire 3. Et ils m'ont suivi dans mon délire, donc on a écrit Strange Desire 3. Et effectivement, c'est pas vraiment un seul et même morceau, c'est vraiment une trilogie, il y a trois parties. Et comme ça a été écrit sur trois ans, on considère que c'est vraiment trois morceaux.
Mais en fait, moi, ça me rappelle aussi un autre groupe, alors qui est devenu lyonnais, mais qui ne l'est pas, qui s'appelle Last Rain, qui pratique un peu ce genre de morceaux un peu fleuve, où ça commence assez calmement, et puis ensuite, vraiment, ça s'énerve énormément.
Oui, effectivement, récemment, ils avaient sorti un titre très long comme ça. Je pense que c'est pas tout à fait la même démarche. En tout cas, on voulait pas que ce soit vraiment un long, long morceau. On voulait que ça puisse être distinct. Et d'ailleurs, on joue pas toujours les trois sur scène. Des fois, il y en a qui s'en vont, des fois, il y en a qui reviennent. Donc, on voulait vraiment se laisser le choix d'avoir trois morceaux distincts. Ouais.
Alors bah justement, parlons de la scène, parce que vous en faites énormément. En tout cas, dans la région, vous avez fait beaucoup de concerts. Donc récemment, le festival Sonotone s'était blindé et les gens étaient en furie.
Oui, la scène, c'est hyper important pour nous. C'est là que la musique se délivre pleinement. Et on en a fait pas mal, effectivement. Je sais pas, je pense que la scène, c'est vraiment le prolongement de notre musique. On se permet de beaucoup de liberté sur les arrangements des morceaux, qui sont pas forcément les mêmes que sur l'album, sur des parties qu'on ajoute. Enfin, c'est vraiment une grande récréation sur laquelle on prend beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de messages qui sont libérés. Il peut y avoir des morceaux très calmes comme sur Stranger 1 par exemple, qui est en acoustique et tout petit. Puis à l'inverse, des énormes explosions comme Wave par exemple, qui était sur le premier EP.
Donc il y a un clip qui est sorti récemment. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que voilà, c'est un peu le monde de la boxe.
La trilogie en général, ça raconte une quête d'amour propre. C'est vraiment le thème, c'est l'amour propre. C'est comment réussir à s'accepter tel qu'on est, comment réussir à balayer cet étrange désir de vouloir plaire aux autres avant de se plaire à soi-même. C'est de ça dont ça parle. Et Stranger 2, c'est le titre le plus mouvementé. C'est celui où vraiment il y a une certaine forme de haine de soi. Et j'avais très envie dans le clip qu'on puisse avoir une actrice qui soit doublée, qui soit en deux. Un peu comme le jumeau maléfique. Des jumelles serait trop trop bien. On a trouvé ces deux actrices et on s'est dit que ce serait bien pour la métaphore de les voir dans un combat ensemble, une forme de... Donc on les a fait voir dans la boxe. C'était simple. Effectivement, bah, le clip, on l'a réalisé nous-mêmes. Du coup, on fait tous nos clips. Donc, c'est vraiment une réal de fait maison qu'on a tourné juste à côté d'ici, en plus. Donc, c'est rigolo. Voilà, on aime bien faire des projets vidéo parce que c'est un peu le prolongement aussi de la musique. Ça permet de bien imager ce qu'on avait en tête. Et on est très fiers de ce clip. On est très contents.
Ouais, ouais. Et alors, le choix du noir et blanc, j'y pense maintenant parce que voilà, c'est quand même un choix fort.
C'était un choix artistique. Enfin, jusque-là, on a fait que des choses en couleur et on s'est dit qu'en noir et blanc, ça pouvait être joli avec beaucoup de grains. On voulait quelque chose d'assez typé. C'était vraiment une envie de notre part de changer un petit peu.
Ouais, puis c'était vraiment pour remettre l'accent sur la dualité. Tu vois, il y avait les jumelles qui sont du coup de la même personne, si on peut dire. Et voilà, le noir et blanc, c'était hyper simple, hyper clair. Et artistiquement, c'était hyper intéressant pour nous d'avoir autre chose à travailler. C'est un nouveau challenge qui était super d'ailleurs. C'était super de travailler qu'en noir et blanc en vidéo. On a beaucoup aimé.
Et donc là, la suite pour vous, ça va être quoi? Alors des concerts, ça, on les signera tout à l'heure, mais peut-être donc l'enregistrement d'un album.
Travailler sur le prochain projet, on ne sait pas encore si ce sera un EP, si ce sera un album, c'est pas clair, mais en tout cas on est en période de composition, ouais. Et on est très content parce que avec toute l'expérience de ces trois dernières années, on arrive de plus en plus à s'affirmer dans ce qu'on a envie de proposer, dans les messages qu'on a envie de passer, dans la musique qu'on a envie de faire, et ça va être un chouette projet.
Quand même une dernière question, vous êtes entouré, enfin, parce que quand vous avez fait le Kiwi, là, il y avait évidemment le Kiwi, c'est justement pour des groupes en devenir où il y a pas d'entourage. Et là, donc maintenant, comment ça se passe pour vous?
Et du coup, on s'autogère sur la tournée, on trouve les dates nous-mêmes de notre côté et on continue là la tournée du premier EP et de ses trois singles jusqu'en janvier. Et donc, demain, par exemple, on va à Avignon et sinon, on va repasser. Deux fois par Lyon, le 21 au Totem à Rieux-la-Pape et le 12 janvier à Bron au Jack-Jack avec un super groupe qui s'appelle le Tisker et qu'on aime beaucoup.
Tout à fait. Et puis aussi à Feur, au Château du Rosier, parce que je parle de la région, le 1er décembre. Ouais, voilà, c'est ça.
Exact.
Écoutez, Strange Desire. I will never be someone else, and I'm more than a shadow. I hate you guys, I hate myself. Let's bury me far below. I'll never be someone else, and I'm more than a shadow. I hate you guys, I hate myself. Let's bury me far below. Despite the gravels that I put in my shoes, words that I threw up on my body, I keep making these promises to myself. I'll never be someone else, and I'm more than a shadow.
be someone else. I'll never 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 be someone else.
On vient d'écouter Send Me Love Letters avec Strange Desire 2. Et vous avez vu, ça, hein, ça arrache hein, quand même. Hein, voilà. C'est vraiment un groupe à suivre. Et notamment, allez les voir en concert. On vous rappelle les dates. La prochaine date, c'est en Avignon le 5 octobre. Mais surtout, à Rieux-la-Pape, au Totem, la MJC du Totem, le 21 octobre.
Bonjour Gaëlle.
Bonjour Gaëlle.
Cette semaine, nous allons voyager avec les nouvelles expositions du MAC Lyon et notamment au Japon avec l'univers très manga de Aya Takano.
Exactement. Alors, grosse actualité pour le MAC, hein. Nous avons trois expositions et une carte blanche. La carte blanche a été confiée à Marie-Lou Poncin, née en 92, prometteuse et charmante artiste émergente. Elle travaille avec les nouvelles technologies sur l'image de la femme dans le monde virtuel, les artifices, fantasmes et illusions autour des canons de beauté. Sa vaste installation multimédia intitulée « La perfection est un mensonge, alors joue avec » occupe l'espace de la mezzanine à l'entrée du MAC. Une autre œuvre de Marie-Lou Poncin figure dans l'une des trois programmations actuelles du musée. L'exposition « Incarnation, le corps dans la collection du MAC Lyon » est l'acte 2 sur le corps dans sa dimension sociale, suite de l'acte 1 qui, lui, traitait du corps dans sa dimension organique. L'œuvre de Marie-Lou Poncin est une série de photos qui aborde une incarnation tout à fait atypique de Kim Kardashian. Mais est-ce bien elle ? À la vision de la première photo, nous sommes tentés de répondre par l'affirmative. Or, c'est bien l'artiste Marie-Lou Poncin elle-même qui s'est grimée. Effet bluffant. Et dispositif singulier car il part du grimage pour nous donner à voir, petit à petit, les coulisses de la métamorphose comme une mue au cours de laquelle l'artiste se déleste des artifices disposés sur son corps. Singer la vérité, l'art est expert en la matière. En déshabillant le stratagème, en mettant à nu le fantasme, cette performance résonne avec la pensée sur la séduction du philosophe Jean Baudrillard. Je le cite. La séduction est de mourir comme réalité et de se reconstituer comme une illusion. Toujours dans l'exposition « Incarnation, le corps, acte 2 », un vaste panorama d'artistes tels que Bruce Nauman, Marina Abramovic et Oulai, Maxwell Alexandre, Eddie Dubien, Claire Tabouret ou Orlan illustrent la notion de corps organique. Le corps marqué et narratif est particulièrement éloquent avec l'art du « ta moko », art des tatouages traditionnels maoris, Kans Nelman présente dans une galerie de portraits photographiques. Toujours dans la veine du corps marqué, Smaël Kanouté a réalisé une vidéo intense et radicale qui dénonce combien les armes aux États-Unis tuent des victimes souvent mineures et afro-américaines. L'artiste fait également écho au mouvement Black Lives Matter. Dans la vidéo, un plan du dos de Smaël Kanouté, entièrement recouvert de mots issus de témoignages de familles des victimes, est révélateur, puissant et poignant. Les passionnés de manga vont être séduits par l'ampleur de l'espace consacré à l'artiste japonaise née en 1976, Aya Takano. Un étage entier du musée est dédié à cette deuxième exposition.
intitulée Nouvelle Mythologie, c'est la première grande exposition muséale individuelle de la mangaka qui frôle la rétrospective car sont présentées, autre grande première, des œuvres de jeunesse d'Aya Takano. L'univers graphique vivement coloré de l'artiste s'articule autour de quatre thématiques, l'enfance, la ville, la science-fiction et l'amour. Les amateurs de manga retrouveront les codes visuels comme par exemple la liberté prise dans le traitement anatomique, grands yeux et autres disproportions corporelles stylisées. La figure de la femme enfant, redondante chez Aya Takano, naît, selon l'artiste, de la recherche d'un équilibre entre corps et esprit. Les œuvres au graphisme acidulé sont empreintes de la célèbre esthétique kawaii, mignon en français, esthétique née en protestation contre les carcans traditionnels japonais et l'âge adulte qui les perpétue. C'est pourquoi Aya Takano, tout comme son travail, sont animés par un grand désir de liberté. L'artiste aime faire fusionner humain, science-fiction et nature. Nature qu'elle aborde toujours plus dans ses créations, car très marquée par la catastrophe nucléaire de Fukushima du 11 mars 2011, elle a changé de vie. Elle a déménagé vers l'océan, introduisant ainsi toujours plus de faune et de flore dans ses œuvres. Œuvre servie dans l'exposition par une scénographie de grande ampleur. Le spectateur est invité à traverser un grand rideau qui divise l'espace en deux. Des vitrines présentent de nombreux objets dignes de ceux des valises des Polly Pocket. Tout autant vivement colorés, des vêtements d'Aya Takano figurent sur les cimaises. Stylisme qu'Aya Takano avait déjà abordé en 2004 lors d'une collaboration avec Issey Miyake. Les fins observateurs noteront que le parcours scénographique débute avec des murs bleu nuit. Couleur qui, petit à petit, dans un jeu de multiples nuances, avance vers une croissante clarté. Au fur et à mesure de votre cheminement, vous arrivez à un immense soleil. Passage de l'obscurité à la lumière, Aya Takano, en quête d'un monde idéal, vise l'optimisme. Au dernier étage se déploie la troisième et dernière exposition, intitulée « Vitesse d'obturation » de Rebecca Ackroyd sous le commissariat de Mathieu Lelièvre. Les visiteurs de la Biennale d'art contemporain de Lyon de 2019 reconnaîtront la monumentale installation que l'on peut traduire par « couvercle roussi ». Rebecca Ackroyd l'a donnée au MAC. Une vision intérieure d'un avion, ou tout du moins de ce qu'il en resterait, si l'œuvre donne à voir l'état d'une carcasse en stade post-crash. Résidus de sièges et fragments de membres jonchent ça et là, puissants et dérangeants. Vous traversez l'espace comme si vous étiez dans l'avion. Votre vision s'anime de flash, comme suite à une brûlure de la rétine. Les matériaux de l'œuvre participent amplement de cette troublante expérience. Cire et résine translucide composent ces moulages. D'une couleur miel roussi, ils évoquent la trace et la fragilité à la fois. Une grande bâche translucide circonscrit la carcasse d'avion. Tout autour, une série de peintures représente à chaque fois un œil de grand format qui pointe en direction de l'installation. Chaque œil pointe, en effet, mais ne perçoit pas, car la bâche n'est pas transparente. Rebecca Ackroyd demeure moins intéressée par le drame, un accident, que par une réflexion sur la vision, la vitesse d'obturation de la paupière et la persistance rétinienne. Comment surgit l'image? Comment l'enregistrons-nous? Qu'en faisons-nous? Quelle réalité percevons-nous effectivement? De vastes interrogations. Les trois expositions et la carte blanche sont programmées jusqu'au 7 janvier 2024. Plus d'informations sur mac-lyon.com.
Merci beaucoup Gaëlle. Je tiens à rappeler qu'il y a une interview de Marie-Lou Poncin sur notre site juste avant cette émission. Je mettrai bien sûr le lien dans la description. Merci. Thomas, bonjour. On poursuit cette émission avec un extrait du recueil « Wesh, quelque part » de Joséphine Bacon. On en reparle juste après.
Aujourd'hui, le printemps s'est mêlé à l'hiver. Tout fond. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Un ancien imite le vent. Il m'a envoûté avec des ailes de perdrix, puis a disparu. Tu m'amènes dans un sentier, tu écris dans le vent. J'avance derrière toi. J'observe le crayon qui dessine ta liberté. tu n'as pas raconté mon peuple. Tu n'as pas dit notre existence. Tu n'as pas entendu notre voix. Elle chantait une incantation dans la peau du tambour pour que continue le rêve. Quelque part dans cette ville, je suis l'humain du moment. Je cherche mes traces. Univers, tu m'offres une lune toute ronde. On me reçoit avec un air déjà entendu. Une main me tend un scotch. J'attends qu'on écoute le poème.
Merci Thomas. Alors, qui est Joséphine Bacon ?
Eh bien, c'est une poétesse, conteuse, conférencière, réalisatrice. Enfin, elle a plusieurs vies parallèles. Elle est de 1947, comme ma maman. Elle est du Québec. Elle est issue d'un peuple autochtone qui s'appelle les Innus. Et elle a vécu même les premières années de sa vie en semi-nomadisme. Voilà, donc elle reste très reliée à cette culture-là.
Et à cette d'ailleurs, nature, si on ressent, nature, hein, absolument.
Tout à fait. D'ailleurs, son livre est bilingue. Hein. Tous ses livres sont bilingues. En tout cas, c'est chez cette maison d'édition québécoise qui s'appelle Mémoire d'Encrier. Et alors, c'est étonnant parce que je trouve que la version française donne à voir des réalités simples. On a l'impression en même temps de choses très lointaines de notre quotidien.
Bien sûr.
Citadin, sédentaire de toute façon, même si on n'est pas tous citadins. Et quand on lit en parallèle ce que je n'ai pas fait, parce que j'ai un complexe pour mettre ça en voix, j'ai pas le ton, j'ai pas le son, mais c'est très étonnant de le voir écrit, déjà. On a presque l'impression d'un chant de baleine sur une page, et on sent tout ce qui nous échappe en même temps de ces mots.
Ouais, c'est en tout cas très beau et c'est une belle découverte. Encore une fois, merci Thomas.
Merci, Gaël.
On termine avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Guillaume, avec quoi es-tu venu ?
Alors moi, je suis venu vous dire qu'il faut absolument aller voir un film, Le règne animal, réalisé par Thomas Caillet, qui est sorti donc ce mercredi. Thomas Caillet, il y a 9 ans, il avait eu le César de la meilleure première œuvre pour Les combattants avec Adèle Hanel, qui déjà avait vraiment bousculé le cinéma français. Mais là, c'est plus une bousculade, là, c'est un choc très important, parce que c'est un film qu'on pourrait qualifier d'anticipation, de science-fiction, puisque ça évoque donc un monde dans le futur où les êtres humains se transforment en animaux, enfin pas tous, mais en tout cas certains. Et donc évidemment, ça évoque plein de thèmes, l'humanité, l'animalité, l'altérité, et puis la filiation, puisque c'est l'histoire d'un couple, Romain Duris, qui joue le père d'Émile, qui est joué par cet extraordinaire jeune Paul Kirchner qu'on avait déjà remarqué dans le film de Christophe Honoré. Et évidemment, là, c'est une révélation, il est incroyable dans le film. Et donc voilà, c'est un film, de science-fiction, mais empreint d'humanité, vraiment c'est un truc assez dingue. Et puis alors c'est bête de dire ça, les trucages sont vraiment très réussis, les paysages sont sublimes parce que c'était tourné dans le pays du réalisateur, donc dans les Landes de Gascogne. Il a même eu des soucis de tournage, puisque quand il a tourné en juin, ça, il y a eu des incendies, donc il a dû changer. Vraiment c'est un film admirable. Il était présélectionné pour les Oscars, enfin pour représenter la France. Il aurait eu plus de chances que le film qui va être candidat pour la France, La Passion de Dodin Bouffant, qui est sans doute très bien, mais enfin qui est un peu la France pépère, la France de la cuisine. C'est très bien, certainement, mais ce film-là vraiment est extraordinaire. Et puis je tenais à préciser une petite note de musique. Moi, pendant tout le film, la musique m'a sidéré, et en fait je me suis dit, mais c'est bizarre, la personne, j'ai l'impression de connaître. Et j'ai attendu évidemment la fin du générique, et c'est un artiste que j'aime énormément, s'appelle Andrea Laszlo da Simone, qui est un Italien de Turin, qui est immense. Il a fait un EP il y a quelques années qui s'appelle Immensité. Et d'ailleurs, Thomas Caillet a écouté cet EP pendant tout le confinement et vraiment a été passionné par cette musique. Il a pu le contacter et il lui a ouvert sa boîte à Mali. C'est un compositeur rare. Il a écrit peut-être près de 700-800 chansons, mais il en sort très peu, en fait, parce qu'il estime que... Enfin voilà, il est tellement perfectionniste. Pour faire vite, Andrea Laszlo da Simone, c'est entre Brian Wilson et Paul McCartney, quoi. Voilà, même les deux en même temps, en fait. Il est tellement brillant. Et donc la musique est vraiment, rajoute quelque chose d'assez d'assez physique, parce que Andrea, c'est même enregistré, on entend son souffle dans le film, et voilà. Et ce film vraiment aussi a du souffle. Moi, je vous conseille vraiment énormément d'aller voir Le règne animal. C'est sans doute un des grands films français de l'année. Je n'ai pas la prétention de voir tous les films, évidemment, donc c'est très difficile de dire que c'est le film français de l'année. Mais moi, personnellement, je trouve ça bien meilleur que La Palme d'Or.
Merci beaucoup Guillaume. En effet, le règne animal, j'ai vu que le lancement pour l'instant, j'en parlerai quand je l'aurai vu. Mais en tout cas, ça m'a donné envie, ce que tu en dis m'a donné très envie. Gaëlle, ton coup de cœur cette semaine?
Mon Gédéon de la semaine est le week-end Oser les Galeries, programmé les 14 et 15 octobre prochains. 15 galeries lyonnaises, réunies sous le label Oser les Galeries, organisent un week-end de découverte, de visite et de promotion de l'art contemporain. N'hésitez pas à pousser la porte de ces galeries d'art. À Lyon, le collectif Oser les Galeries a été créé en novembre 2020 à l'initiative de Céline Melon de la galerie Manifesta et de Béatrice Bréchignac de la galerie Tatis. Nombreux sont les week-ends de visite qui ont déjà été programmés. La nouveauté, pour celui des 14 et 15 octobre prochains, est qu'il entre en résonance avec la première édition du Starting Sunday, un événement du comité professionnel des galeries d'art. Le comité souligne combien les galeries sont des acteurs essentiels du paysage artistique et constituent le plus grand musée gratuit de France. Oser les galeries, c'est oser la découverte, oser l'échange. Pour parfaire vos visites des galeries in situ, n'oubliez pas d'aller aussi place Antonin Poncet. Une exposition temporaire du collectif Oser les Galeries est programmée sur la place elle-même. L'événement est organisé en partenariat avec les Amis de la place Antonin Poncet et LPA, Lyon Parc Auto. Je rappelle les dates du week-end Oser les Galeries, les 14 et 15 octobre prochains. Plus d'informations sur oserlesgaleries.com.
Pour conclure, moi je vous propose de marquer d'une pierre blanche ce spectacle essentiel. Dans le cadre du Festival du Théâtre de l'Urgence, Sens Interdit, qui se tiendra du 14 au 28 octobre, la dernière création de Tatiana Frolova, metteuse en scène et dramaturge russe qui a quitté son pays après l'invasion de l'Ukraine. Les questions posées par ce spectacle pourraient se résumer ainsi. Comment faire rentrer toute sa vie et 37 ans de travail d'un théâtre dans une valise de 23 kilos? Que laisse-t-on derrière soi? Qu'est-ce qu'on emporte avec soi quand on ferme définitivement la porte? Qu'est-ce qu'on porte en nous, dans nos veines et nos gènes, ce bagage légué par nos ancêtres et qui nous constitue? Comment repartir de zéro, trouver sa place, mais garder sa voix pour continuer à témoigner et à résister en exil? À partir de l'expérience de chaque membre de la troupe du théâtre qu'elle a fondée, la dramaturge interroge dans « Nous ne sommes plus l'exil », la mémoire de la Russie et la trace que nous laissons dans le monde. Un spectacle essentiel et pour réserver une seule adresse, sensinterdit@.com. Bonne semaine à tous, à bientôt.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.